Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, Accent d'Europe confiné, réalisé à distance, bref, on se débrouille, c'est un peu ce qui ressort de cette période de confinement. Il faut apprendre à faire autrement alors que, bien souvent, manque des produits, des technologies essentielles à la lutte contre le Covid-19. Nous allons d'abord en Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne, avec dans le sud des milliers d'ateliers de confection qui travaillent habituellement pour les grandes enseignes de marques de mode à bas prix. Grâce à un gros effort industriel au niveau local, les masques réapparaissent en vente libre dans les pharmacies et les quincailleries. Damien Vodenicharov.
La petite usine est presque septuagénaire. Neresev, une entreprise municipale fondée en 1954 dans la ville de Stara Zagora, à 220 km de la capitale Sofia. Une note collée à la porte d'entrée indique les heures d'ouverture aux particuliers désireux d'acheter des masques, mais ça fait plusieurs jours qu'il ne reste plus rien à vendre en magasin. Avec 90 employés, dont 25 couturières, cette PME est spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail et de tenues médicales. Comme en temps de guerre, elle a vite été reconvertie, raconte la directrice Tania Slavova.
On fabrique des masques depuis le 9 mars. On a dû se reconvertir en raison de la situation dans le pays. L'entreprise est municipale, c'est donc la mairie qui nous a confié la tâche de fabriquer des masques à 5 couches d'étamine sur demande des médecins de la cellule de crise.
La demande est énorme, même au niveau local. Dans les premiers jours de l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux bulgares, les médecins et les équipes de la police étaient dépourvus d'équipements de protection et surtout de masques. Il a donc fallu que l'industrie textile vienne à la rescousse, explique Tania Slavova.
Seule une très petite partie de notre production est destinée aux particuliers. Notre capacité de production est limitée et les masques peuvent paraître simples, mais leur fabrication est très minutieuse. Nos masques sont destinés surtout aux hôpitaux et aux grandes entreprises de la région. La liste est très longue, malheureusement. Nous vendons très peu hors de notre région. Nous vendons surtout ici à Stara Zagora.
RSF produit 1500 à 2000 masques seulement par jour. Quand les besoins dans le pays sont estimés à 200 000 par mois, rien que pour les urgentistes. Depuis le début de l'état d'urgence à la mi-mars, le gouvernement a fait appel à plus de 60 entreprises de textile, du secteur privé comme du secteur public. Combinaisons étanches, masques chirurgicaux, masques FFP2 et 3, la demande est sans fin. Les usines attendent également les licences nécessaires à l'export vers d'autres pays européens. Le Premier ministre bulgare Boyko Borisov n'a d'ailleurs pas manqué de se vanter de l'intérêt porté à la production bulgare par des pays ouest européens.
Le chancelier autrichien et 5 ou 6 autres collègues m'ont appelé à l'aube pour me demander des combinaisons de protection. Les ambassadeurs ont dû les informer du travail effectué dans nos usines. Aujourd'hui, on va donc leur organiser une petite expo. Parce que Sébastien m'a dit « Boyko, je t'en supplie, il me les faut aujourd'hui, ces combinaisons pour les médecins en première ligne. »
Mais le Premier ministre devra attendre avant de pouvoir équiper ses partenaires européens. Les combinaisons font encore défaut au niveau national. Les hôpitaux dans plusieurs grandes villes du pays ont reçu des vêtements militaires de protection chimique fabriqués lors de l'accident de Tchernobyl en 1986. La plupart des masques disponibles dans les pharmacies, les quincailleries et les grandes surfaces sont de fabrication artisanale et offrent peu de protection contre le coronavirus.
Pendant que les officiels tentent de trouver des solutions à l'épidémie de coronavirus, ingénieurs et créateurs se lancent dans le do-it-yourself, le bricolage, le fait maison. Ils créent un peu partout dans le monde des systèmes gratuits, libres de droits, pour mettre au point des équipements médicaux de pointe qui manquent cruellement. C'est le cas en Irlande, dans la région de Galway, pour construire des respirateurs d'urgence. Explication, Emeline Vin.
Pour Aaron Hannon, ingénieur en technologie médicale à Galway, tout a commencé début mars, au tout début de l'épidémie irlandaise.
Tout le monde était très inquiet au sujet du manque de respirateurs artificiels à travers le monde. J'ai pris contact avec d'autres ingénieurs et des docteurs. On a compris qu'il y avait surtout un manque d'appareils pour les malades les plus graves, ceux qui ne sont pas prioritaires pour les respirateurs existants.
Avec l'aide de plusieurs entreprises, de Galway et de Cork, le jeune homme monte une équipe d'une trentaine de personnes pour mettre au point enfin un respirateur artificiel d'urgence, encore en cours de conception.
On développe un respirateur qui peut être fabriqué n'importe où dans le monde. On veut que les pièces puissent être produites par des imprimantes 3D et on essaie de réduire le nombre de composants électroniques. La simplicité, c'est notre mot d'ordre.
Le respirateur sera open source, c'est-à-dire que toutes les étapes de sa production seront disponibles et téléchargeables par tous. Les ingénieurs misent sur un système qui fonctionnerait par force pneumatique avec de l'air comprimé et une mécanique très élaborée. Pour aller au plus vite, Aaron Hanon a lancé une cagnotte participative et pour récolter des fonds, il s'appuie sur des mouvements aussi variés que Cut for Covid. On pourrait le traduire par une boule à zéro contre le Covid. Explication de l'un de ses initiateurs, Jack McDonald.
Avec des copains, on s'est rasé la tête pour s'occuper et on a publié ça sur les réseaux sociaux. Plein d'autres copains ont fait pareil. Et j'ai réalisé qu'on tenait quelque chose. Ce qu'on demande aux participants, c'est de faire un don s'ils le peuvent et surtout de partager la campagne sur leurs réseaux sociaux.
Cet étudiant en commerce a déjà rassemblé 2000 euros entièrement reversés à la recherche pour les respirateurs.
J'ai vu qu'en Italie, les docteurs devaient sélectionner les patients. Ceux de plus de 65 ans n'avaient pas accès à des respirateurs, car ils avaient moins de chances de survie que les jeunes. Et puis, je suis tombé sur la page d'Aaron et je me suis dit que s'il pouvait changer les choses, alors je serais ravi de faire campagne pour eux.
Le projet du respirateur d'urgence a récolté 3 fois plus de fonds que la cible initiale. Cet argent permet d'accélérer la recherche en achetant davantage de matériel. Aaron Hanon et son équipe, de toute nationalité, espèrent tester les premiers modèles d'ici la fin avril.
La courbe se sera probablement aplanie d'ici là, mais ce virus sera encore là pour un petit moment. Nous voulons éviter le plus de morts possible. Et puis, le virus va affecter d'autres régions du monde, des pays émergents, en manque d'équipement. Nous voulons protéger les patients en Irlande, mais nous avons l'ambition de sauver des vies partout sur la planète.
S'il reste de l'argent sur la cagnotte initiale, l'équipe de la Covid Response le reversera à des associations affectées par l'épidémie.
En République tchèque, quand Skoda a dû arrêter sa production, les salariés du constructeur automobile ont décidé d'utiliser leurs imprimantes 3D industrielles pour fabriquer des masques pour le personnel soignant à Prague, Alexis Rosenzweig.
C'est le bâtiment le mieux gardé et le plus secret de l'usine Skoda, celui où d'ordinaire on fabrique les prototypes de véhicules et où l'on teste les dernières innovations de la filiale tchèque du groupe Volkswagen. C'est dans ce bâtiment aujourd'hui que sont fabriqués plus d'une 60aine de masques par jour, pas n'importe quel masque, des FFP3 qui sont destinés au personnel soignant et à tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus. Il s'agit de masques réutilisables, réalisés en collaboration avec l'Université technique de Prague et imprimables seulement avec des imprimantes 3D industrielles. L'impression des pièces pour fabriquer 65 masques prend 16 heures en tout. Et ils doivent ensuite être assemblés avec du silicone. Prague en a envoyé plusieurs exemplaires à l'Italie avec d'autres protections médicales et surtout avec le mode d'emploi pour pouvoir en fabriquer sur place. La Tchéquie figure parmi les pays les plus actifs en matière d'impression en 3 dimensions, pas seulement pour l'impression industrielle, mais également pour l'utilisation d'imprimantes 3D domestiques, celles dont sont déjà équipés de nombreux foyers en Europe. Le fondateur d'une de ces marques tchèques réputées d'imprimantes 3D, Josef Prucha, a mis à la disposition de tous le fichier nécessaire pour imprimer chez soi une visière de protection déjà approuvée et recommandée par un hôpital universitaire américain.
En France, depuis le début de l'épidémie, on a du mal notamment à trouver du gel hydroalcoolique. Comme la formule est libre de droit, en plein cœur du quartier latin à Paris, une pharmacie s'est mise à fabriquer des milliers de litres de gel sur le trottoir. Léa Lisa Westerhoff avec Vasile Damian de la rédaction roumaine.
Deux gros bidons bleus qui encombrent le trottoir, un camion, portes ouvertes et une quinzaine de personnes en blouse blanche, masque et charlotte qui touillent et s'affairent. Depuis un mois, la rue Mignon du 6e arrondissement est devenue méconnaissable. Fermée à la circulation pour laisser plus de place à cette fabrication à grande échelle de gel désinfectant. Fabien Bruno, dirigeant de la pharmacie Delpech.
Lorsque l'OMS a donné la formule, beaucoup de nos clients pharmaciens nous ont demandé de fabriquer la solution hydroalcoolique pour eux. Et donc ça s'est fait comme ça. Au début, on faisait quelques litres, quelques dizaines de litres. Et puis maintenant, on fait plusieurs milliers de litres par jour. Mais ça n'a pas été une volonté de notre part. On n'a fait que répondre à la demande de nos clients pharmaciens au départ. Et maintenant, on répond à la demande de beaucoup d'autres personnes, que ce soit la police, les pompiers, les hôpitaux, les EHPAD.
10 000 litres de gel désinfectant sortent chaque jour de cette pharmacie, de quoi remplir 100 000 flacons individuels. Et pour fabriquer autant de gel, cette officine spécialisée dans les préparations de produits pharmaceutiques a dû pousser les murs jusqu'à carrément s'installer dans la rue.
Très vite, en réalité, on a commencé à déborder de cette pièce en mettant des palettes, en mettant des fûts, en mettant des déchets... papier, des cartons sur la rue, et déjà la police venait récupérer la solution hydroalcoolique, nous a demandé ce qu'ils étaient capables de faire pour nous aider, et donc on leur a dit que ça serait bien de bloquer la rue. 3 heures après, on avait la police et la mairie de Paris qui bloquaient la rue à la circulation, les voitures qui étaient en stationnement ont été déplacées, et donc on a pris nos aises dans la rue.
50 mètres d'une rue parisienne entièrement dédiée à cette fabrication, comme les 15 membres de son équipe, Fabien Bruno ne compte plus ses heures. Chaque jour, 6000 pharmacies viennent lui acheter son gel, mais aussi des policiers, des boulangers ou des bouchers de Paris, mais pas seulement.
Les gens viennent de Niort, d'Auxerre, le plus loin qu'on ait fait, c'est, je crois qu'on a quelqu'un qui est venu de Montélimar, mais les gens viennent de très très loin, oui. J'ai un sentiment de fierté, évidemment, oui, on travaille beaucoup, on travaille maintenant, ça va faire 5 dimanches de suite qu'on est présent à la pharmacie, donc 7h30, 8h jusqu'au soir, 21h, 22h. On a un sentiment de devoir qu'on accomplit et qu'on essaiera de tenir jusqu'au bout de la demande et de la pénurie.
Prochain objectif, produire 3 fois plus, soit 30 000 litres de gel hydroalcoolique par jour, de quoi approvisionner toute la capitale française. Des discussions avec la mairie sont d'ailleurs lancées pour essayer de trouver un espace encore plus grand.
Depuis maintenant 5 semaines, l'Italie est confinée, le sud est moins touché par la crise sanitaire que le nord, mais les effets sociaux du confinement y sont dévastateurs. On l'a vu récemment à Palerme, en Sicile, où un groupe de 13 personnes a voulu prendre d'assaut un supermarché discount. C'est en tout cas le plan qu'ils avaient élaboré sur les réseaux sociaux. Dans les faits, ils ont refusé de payer leur chariot plein de nourriture. Ils ne sont partis qu'après une intervention de la police. Cécile Debarge, bonjour, vous êtes notre correspondante à Palerme. Est-ce que c'est un fait isolé ?
Ce n'est arrivé qu'une fois, mais c'est symptomatique du malaise social profond qui touche une large partie du Mezzogiorno, le sud de l'Italie. Pour vous donner une idée de l'impact du confinement, en Campanie, la Banque alimentaire a noté une hausse de 45% des demandes d'aide pour le mois de mars. Le syndicat agricole Coldiretti estime, lui, qu'un demi-million de personnes supplémentaires ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Alors, bien sûr, l'État italien a débloqué des aides exceptionnelles pour les particuliers, report des échéances de prêts immobiliers, des paiements de certaines taxes, bonus de 600 euros aussi pour les travailleurs indépendants, et j'en passe. 400 millions d'euros ont été distribués aux communes pour financer une aide alimentaire d'urgence.
Est-ce que cette aide alimentaire suffira pour aider ces familles, Cécile ?
Probablement pas, car encore faut-il être un travailleur ou un citoyen enregistré en bonne et due forme auprès des autorités, ce qui est loin d'être une évidence dans un pays où 3,7 millions de travailleurs ne sont pas déclarés. Vittoria Arrico est présidente de l'association NACA. Elle intervient auprès d'un public défavorisé dans un quartier du centre historique de Palerme et elle souligne un autre problème.
De nombreuses familles palermitaines n'ont pas de pièce d'identité. Donc quand ils veulent s'inscrire sur le site de la protection civile pour demander une aide alimentaire, concrètement un paquet de pâtes, ils ne peuvent pas le faire car ils n'ont ni carte d'identité ni code fiscal.
Incapables de payer leurs courses, ces Italiens se retrouvent souvent sans le sou pour payer leurs factures mais aussi leur loyer. Pour certains locataires, la situation est particulièrement tendue depuis le début du mois d'avril et le nouveau loyer à payer, explique Alessandra Canizzo, travailleur social au sein de l'association palermitaine Ikenga, qui suit près de 120 familles dans le cœur historique de Palerme.
Tu peux tomber sur celui qui va dire « je vais te jeter à la rue ». Et même si officiellement les expulsions sont bloquées, il y a eu des situations vraiment désagréables. Des personnes qui ont reçu des menaces du style « demain je t'envoie la police et tu finis dehors ». Ou bien, dans le pire des cas, ça dépend qui est le propriétaire, 3 ou 4 personnes arrivent chez toi et te disent « maintenant tu sors parce que t'as pas payé ».
Elle explique aussi que certaines familles n'ont même plus les 10 euros nécessaires pour recharger leur téléphone, ce qui veut dire pas d'accès Internet et donc pour les enfants,
pas d'école. Une situation préoccupante, estime Vittoria Arrico.
Oui, on s'inquiète de savoir à qui profitera le malheur de ces gens, car il y a une partie de la population qui n'a vraiment rien à manger et qui ne sait pas où aller pour trouver à manger.
La commission parlementaire antimafia a déjà tiré la sonnette d'alarme. La mafia pourrait être la grande gagnante en proposant de l'aide là où l'État n'arrive pas. Au Zen, l'un des quartiers les plus difficiles de la ville, une distribution de nourriture a déjà été organisée par le frère d'un des parrains du quartier. Outré que la presse locale le signale dans un article, il a commenté ainsi sur son profil Facebook « Pour aider les gens et leur donner à manger, je suis fier d'être mafieux ».
Merci Cécile, à bientôt. Bon gré, mal gré, nous sommes tous en train de devenir des spécialistes du confinement. Mais en la matière, certains ont une longueur d'avance, comme le russe Kirill Serebrennikov. Le metteur en scène est une figure de la jeune scène artistique russe. Il a connu l'assignation à résidence pendant un an et demi. Et aujourd'hui, il donne via Internet ses conseils pour réussir son confinement, Étienne Bouche.
Il faut dire que le metteur en scène a acquis une solide expérience en la matière. Accusé par la justice russe de détournement de fonds publics dans une nébuleuse affaire, Serebrennikov est resté assigné à domicile pendant un an et demi. Dans une vidéo diffusée sur Internet, il prodigue, pince sans rire, ses conseils d'expert en confinement. Comment ne pas devenir fou en restant chez soi ? Le metteur en scène propose une approche en 10 points. Rompre avec la cadence folle des réseaux sociaux, tenir un journal intime ou encore se plonger dans ces gros livres posés sur votre étagère et que vous prétendez avoir lus. Les Bienveillantes, Guerre et Paix, Don Quichotte, le plus important pour cet artiste imprégné par la philosophie bouddhiste, ne pas broyer du noir.
Si vous apprenez à tirer uniquement les aspects positifs, alors votre vie en confinement ne sera pas complètement inutile. Mettez de côté cette impression d'être assigné à domicile, de voir le temps filer et de ne rien pouvoir en faire, et acceptez cette situation comme un cadeau du destin.
Kirill Serebrennikov a été arrêté à Saint-Pétersbourg en août 2017. Cette figure bien connue des grands festivals européens, de Cannes à Avignon, dirige le Centre Gogol, l'un des théâtres les plus stimulants de Moscou. Son arrestation a ébranlé le milieu de la culture qui y voit une affaire à caractère politique. Serebrennikov est resté assigné à résidence jusqu'au printemps dernier. La justice a depuis renvoyé le dossier au parquet, l'estimant incomplet. Mais l'affaire n'est toujours pas close et le metteur en scène n'est pas autorisé à quitter Moscou. Cette crise sanitaire signifie donc pour lui un retour au confinement.
Pensez à ce qui vous fait plaisir. Est-ce de regarder un nouveau film tous les jours? De découvrir un nouveau style de musique? Si c'est le cas, faites-le. Dans votre emploi du temps, vous devez inscrire un mot. Plaisir. Trouvez-vous une source de réjouissance tous les jours. Remettez vos compteurs à zéro en prenant du plaisir.
Remettre les compteurs à zéro. L'expression est utilisée à 4 reprises dans la vidéo. Difficile de ne pas y voir une allusion ironique à la situation politique en Russie, où Vladimir Poutine vient d'engager une réforme constitutionnelle. Le mot « обнуление » qu'emploie Serebrennikov pourrait être traduit en français par « retour à zéro » ou « remise à plat ». Le terme est devenu viral le mois dernier lorsqu'une députée, l'ancienne cosmonaute Valentina Tereshkova, a suggéré dans le cadre de cette réforme de remettre à zéro le compteur des mandats présidentiels. La démarche est claire et assumée. Il s'agit de permettre à Vladimir Poutine de briguer à nouveau la présidence. Une perspective jusqu'alors inenvisageable en raison de la limite fixée à 2 mandats consécutifs. Dans une mise en scène savoureuse, Vladimir Poutine a accueilli favorablement cette proposition qui lui permettrait de fait de rester quelques années supplémentaires au Kremlin.
Accent d'Europe confiné, à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.